En coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
La Terre est la seule planète connue où l'eau liquide, l'ingrédient indispensable à la vie tel que nous pouvons l'imaginer, est stable durablement en surface. Pour sa part, Mars est devenu un désert glacé et Vénus au contraire une fournaise brûlante et sèche. Pourtant, ces deux planètes sont nées à partir des mêmes ingrédients que la Terre, il y a 4 milliards et demi d'années. Alors pourquoi Mars et Vénus n'ont-elles pas connu le même destin que la Terre ? Pour répondre à ces questions, nous vous proposons d'écouter l'intervention de François Forget du laboratoire de météorologie dynamique, une conférence qu'il a donnée au Bureau des longitudes en janvier 2012. Pour suivre au mieux ces explications, nous vous invitons à télécharger le support visuel de sa communication sur notre site internet. On retrouve sans plus tarder François Forget.
On m'a invité aujourd'hui en me demandant directement de parler de l'évolution des climats de Mars et de Vénus parmi les différentes choses que l'on peut faire. Et donc, ça va être un grand plaisir. Je vais essayer de vous raconter les choses que l'on connaît et surtout en fait les questions qu'on se pose sur ces sujets qui sont vraiment des sujets d'interrogation permanents. Le sous-titre, bien sûr, c'est « Pourquoi nos voisines n'ont-elles pas connu le même destin que la Terre ?» Et en particulier, pourquoi sur Vénus et Mars, on n'a pas de l'eau liquide, un climat propice à la vie telle qu'on la connaît. Je ne vais donc pas vous parler des autres planètes qui sont soit beaucoup trop près du Soleil, soit très loin du Soleil, des endroits où il fait vraiment très froid ou très chaud. Mais on va se concentrer sur Vénus et Mars, nos voisines, qui ne sont pas si distantes que cela, qui ne reçoivent pas une quantité d'énergie si différente que cela par rapport à la Terre, mais qui, malgré ceux-là sont vraiment très différents. Je vous rappelle en deux mots, Mars est une petite planète, deux fois plus petite que la Terre, une fois et demie plus éloignée du Soleil. Et sur Mars, c'est une photo prise à la surface, c'est un vaste désert glacé, très froid, avec une très fine atmosphère de dioxyde de carbone, ce qui fait que même si la température dépasse parfois 0 degré, l'eau liquide est instable en surface. On a actuellement sur Mars, on ne peut pas avoir d'eau liquide, on a soit de la glace, là vous en voyez dans le ciel, ce sont des nuages de glace d'eau, soit de la vapeur d'eau, il y a de la vapeur d'eau, mais pas d'eau liquide facilement. Sur Vénus, au contraire, ça aussi vous le savez tous, je suis sûr très bien, Vénus est un enfer sec, on a au contraire une très épaisse atmosphère de dioxyde de carbone, une température en surface qui dépasse 450 degrés Celsius. Et pourquoi cela ? Bien parce que vous avez cette très épaisse atmosphère de dioxyde de carbone combinée avec une épaisse couche de nuages, essentiellement d'acide sulfurique, crée un effet de serre extrêmement fort qui fait qu'on a ces conditions très très chaudes à la surface et en plus à retenir. Même s'il fait chaud, en plus, vous n'avez presque pas de vapeur d'eau dans l'atmosphère de Vénus. Tout est parti, il n'y a presque plus d'eau, ni même sous forme de vapeur, malgré la température. Alors, on pourrait se dire, c'est parce que Vénus est trop près et Mars est trop loin. C'est la raison. En fait, ce n'est pas si évident que ça. C'est vrai que Vénus est plus près, elle reçoit plus d'énergie solaire, mais jusqu'il y a quelques dizaines d'années, avant l'ère spatiale, on va dire, lorsqu'on regardait Vénus, on voyait qu'elle avait beaucoup de nuages, un albédo, donc elle était très brillante, elle réfléchissait beaucoup l'énergie solaire et on pensait qu'elle était même plus froide ou à peine plus chaude que la Terre. Mars, au contraire, il y a 50 ans, si elle avait une atmosphère épaisse, on estimait qu'elle pouvait être comme la Terre. Et malgré tout, elles sont extrêmement différentes. Et c'est d'autant plus étonnant que si on s'intéresse à leur formation, on se rend compte que ce sont des planètes sœurs. Tout indique qu'elles ont une formation comparable. Il y a 4,5 milliards d'années, quand le système solaire s'est formé. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. La formation des planètes, ça change tout le temps, les théories, mais enfin, en gros, on a toujours l'idée qu'on a une nébuleuse solaire primitive, on forme des planétésimaux, des grumeaux qui vont de quelques kilomètres, puis qui vont faire des embryons planétaires de quelques dizaines, centaines, milliers de kilomètres, et enfin des planètes. Et pour ce qui concerne le point qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les ingrédients qui forment l'atmosphère, éventuellement l'hydrosphère, tout indique aussi que Mars, Vénus et la Terre sont issus des mêmes ingrédients. Alors il y a de nombreux scénarios possibles pour l'origine en particulier des hydrosphères et des atmosphères, parce que c'est pas évident, il faut refournir, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais tout indique que les ingrédients sont les mêmes. D'ailleurs, pour vous illustrer cela, je vais vous montrer, donc là, je vous illustre déjà un disque protoplanétaire. On imagine tout cela constitué de planétésimaux, des morceaux, des astéroïdes, on va dire, de quelques kilomètres de diamètre, qui sont en orbite autour du jeune Soleil, et les planètes géantes se forment. Et là, je vais vous illustrer ça avec une simulation numérique de travaux qui sont par Sean Raymond, qui est actuellement à Bordeaux, et c'est aussi lié à l'équipe d'Alessandro Morbidelli à Nice, et qui ont montré que si on simule la formation des planètes comme, encore une fois, la Terre, Vénus et Mars, on voit que le fait que Vénus soit plus près ou plus loin, ça ne change pas grand-chose dans leurs ingrédients. Ce que je vais vous montrer ici, vous avez ici un graphe où vous avez la distance au Soleil en unité astronomique, en bas. Vous voyez, la Terre est au niveau de 1, dans le rouge, Et puis vous avez l'excentricité. Donc, et là, ces petits grains de couleur que vous voyez, ce sont différents planétésimaux initiaux au début de la simulation numérique. Les rouges sont très secs et les bleus sont plutôt des astéroïdes carbonés constitués avec pas mal d'eau, disons juste quelques pourcents d'eau. Et on pense, pour plein de raisons liées à l'étude des isotopes, etc., que l'eau de la Terre et éventuellement sur les autres planètes, ainsi que beaucoup des éléments volatiles comme le dioxyde de carbone, ont pour origine ces astéroïdes carbonés. Et ce que va vous montrer cette simulation, c'est lorsqu'on simule le passage depuis ces petits grains de planétésimaux jusqu'à des planètes entières, eh bien, on va voir que ça se redistribue de manière un peu stochastique, aléatoire, selon les planètes, en tout cas dans cette simulation. C'est une simulation parmi beaucoup de scénarios. Donc ce que vous voyez là, c'est beaucoup de mouvements. Les impacts et les différentes influences gravitationnelles font que l'excentricité va beaucoup monter. Donc certains de ces astéroïdes qui étaient riches en eau au départ, qui étaient loin du Soleil, vont de temps en temps s'approcher, impacter ou interagir avec des choses plus au centre. Et peu à peu, des protoplanètes vont se former. Et ce que illustre ce film fait par Sean Raymond, c'est que dans cette simulation-là, par hasard, il se forme trois planètes qui ressemblent vaguement à Mars, Vénus et la Terre. Et on voit que elles sont plus ou moins riches en eau. Enfin, dans tous les cas, elles sont riches. Alors, je dois dire que ce film est peut-être un peu obsolète parce que depuis, l'équipe, donc la même équipe, Sean Raymond, Morbidelli, etc., ont suggéré d'autres scénarios avec une planète Jupiter qui se rapprocherait du Soleil, remettrait tout à zéro. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. En tout cas, tout indique qu'on est parti des mêmes ingrédients. Donc, si on prend un inventaire initial, donc ça, c'est l'inventaire initial tel qu'on pouvait l'imaginer il y a 20 ans. Simplement, on prend la Terre, puis on met à l'échelle Vénus en fonction de la masse initiale. On imagine que Vénus, la Terre et Mars ont commencé avec beaucoup de gaz carbonique, beaucoup d'eau. Donc là, vous avez des dizaines de barres de dioxyde de carbone, des centaines de barres d'eau, un peu moins sur Mars, parce qu'elle est moins volumineuse, un petit peu d'azote. Et ce que l'on sait maintenant, c'est que si on regarde les atmosphères actuelles, eh bien, tout cela est très différent. Vénus contient encore une grande partie de son atmosphère, son inventaire initial de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, 90 bars, mais par contre, elle a totalement perdu son eau, en tout cas, autant qu'on puisse le dire. La Terre, elle, a une atmosphère, comme vous le savez, d'azote et d'oxygène, mais le dioxyde de carbone initial n'est pas dans l'atmosphère, il est sous forme de carbonate dans le sous-sol, je vais y revenir. Il y a des océans liquides. Et puis sur Mars, il n'y a presque plus d'atmosphère. Tout a été presque perdu. Il y a un petit peu d'eau, il y a un petit peu de CO2, mais presque plus rien. Donc il y a une évolution qui a fait que les destins de ces planètes ont été différents. Et on pourrait se dire que c'est au départ que c'était différent. Ce n'est pas sûr, et même, je vais essayer de vous raconter une histoire, de partir de l'hypothèse où vous montrez que tout indique en fait que même il y a 4 milliards d'années, les trois planètes avaient des destins assez similaires. Il y a 4 milliards d'années, on peut imaginer, scientifiquement, qu'il y avait de l'eau liquide, des lacs, des rivières, voire des océans sur les trois planètes. Et que c'est entre moins 4 milliards d'années, donc 500 millions d'années après la formation, le Soleil était bien stable, etc., et maintenant que le destin de ces planètes ont divergé. Alors, donc pour mener cette enquête, pour comprendre ce qui s'est passé, revenons 4 milliards d'années en arrière et regardons quelles étaient les conditions, en particulier pourquoi les conditions étaient différentes de ce que l'on a actuellement. Alors, il y a plusieurs choses qui sont différentes. À l'époque, en particulier, entre 3,9 et 3,8 milliards d'années, il y avait des bombardements météoritiques très intenses, ce qu'on appelle le bombardement massif tardif, je ne vais pas trop en parler. On avait un Soleil qui était différent, peut-être une atmosphère plus épaisse, un flux géothermique plus élevé, les planètes étaient plus jeunes. Et puis, mais ce qui va surtout, pour commencer, être important pour nous, c'est de mentionner le fait que le Soleil jeune, comme vous voyez là, avec sa casquette, eh bien, était un peu plus faible, son luminosité était plus faible. En effet, c'est pour des raisons de physique stellaire, au cœur de... Donc, comme vous savez, le Soleil, c'est une machine thermonucléaire qui transforme de l'hydrogène en hélium. Et au fur et à mesure du temps, petit à petit, milliards d'années après milliards d'années, au cœur du Soleil, une partie de l'hydrogène, la fraction d'hélium augmente, la densité augmente, et donc le Soleil est un peu plus efficace. Et donc sa luminosité croît doucement, sur sa séquence principale, on appelle ça. Et donc il y a 3,5-4 milliards d'années, on peut imaginer que le Soleil était 25% plus faible qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est une première condition importante, et peut-être et cette augmentation-là, on va le voir, a joué un rôle dans l'évolution des planètes. Si on s'intéresse notamment au cas de la Terre, eh bien, on voit que ce Soleil faible pose un certain nombre de questions. C'est un vieux problème de climatologie qu'on appelle le paradoxe du Soleil faible, en anglais le Fent-Jungson paradoxe, et qui nous dit que la Terre a eu un comportement, une évolution assez particulière qui a fait qu'elle a su toujours adapter son climat. Alors, en deux mots, ce paradoxe-là, alors le schéma est un peu compliqué, je ne sais pas si vous voyez tous bien, mais ce qu'il raconte, c'est que vous avez un schéma, alors si vous regardez en gros la grosse bande bleue, c'est la, la température avec ou sans effet de serre en faisant l'hypothèse qu'on a l'atmosphère terrestre actuelle. Ce que l'on voit sur ce schéma, c'est que si on revient 4 milliards d'années en arrière, la planète Terre telle qu'on la connaît, avec ce soleil plus faible, aurait dû être beaucoup plus froide et on n'aurait pas dû avoir d'eau liquide. En particulier, on peut aussi prendre en compte le fait que lorsqu'on prend la planète Terre actuelle et qu'on diminue de 25% le flux solaire, eh bien, la température descend, l'eau, il y a de plus en plus de neige, de banquise, de glace, donc l'albédo de la planète, donc le flux solaire va être réfléchi, ça va avoir tendance à encore plus refroidir la planète. Et en prenant en compte tout cela, un flux solaire plus faible, plus de glace et de neige, depuis de nombreuses années, les chercheurs les climatologistes se sont dit c'est vraiment étonnant, la Terre aurait dû être complètement englacée à cette époque-là, et elle aurait dû le rester une grande partie du temps, voire même rester coincée sous forme englacée. Or, ce n'est pas du tout le cas. Si on regarde les quelques archives géologiques que l'on a, il y a 3, 3,5, 3,8, peut-être avant, si on regarde ce qu'on appelle des zircons, je ne vais pas entrer dans les détails, on peut penser que la Terre a toujours connu des océans d'eau liquide à sa surface, et qu'elle n'a jamais été englacée, sauf pendant des courtes durées géologiques, partiellement. Donc, il y a là un élément important qu'il faut retenir pour la Terre, et qui n'était pas vrai pour Mars et Vénus, apparemment, c'est que la Terre non seulement connaît de l'eau liquide actuellement, mais elle a toujours pu maintenir de l'eau liquide à sa surface. Et il semble que, pour avoir de l'eau liquide à sa surface, le climat a dû s'ajuster pendant toute l'existence de la Terre aux différents soubresauts climatiques, aux variations du flux solaire, etc., qui ont pu exister. Et on a mis en évidence, depuis une trentaine d'années, un mécanisme qui permet en fait d'ajuster le climat et un vrai thermostat naturel qui a permis à la Terre de rester dans cet état propice à l'eau liquide et à la vie depuis toute cette époque-là. Ce système-là, je vais raconter rapidement, c'est ce qu'on appelle le cycle des carbonates silicates. C'était vraiment mis en évidence par un article de Walker en 81. Et depuis, il y a un grand nombre d'articles qui ont fait que confirmer la réalité de ce mécanisme. Alors, ce dont je parle, regardez le graphe, c'est un mécanisme suivant. Si vous partez d'une atmosphère avec du gaz carbonique dans l'atmosphère, ce gaz carbonique va naturellement se dissoudre dans l'eau douce sur les continents, éventuellement dans les océans, mais plus facilement dans l'eau douce des continents. Et l'eau liquide qui coule sur les continents va aussi lessiver le calcium, etc., de la surface, et amener tout ça dans les océans. Dans les océans, bien sûr, les sels, les ions s'accumulent, et on va avoir, au-delà d'une certaine concentration en calcium, dans cet exemple-là, et en ion HCO3-, formation de carbonates qui vont se déposer au fond sur le plancher océanique. Et sur Terre, actuellement et probablement à l'époque, tout ce qui se dépose chez océanique, à des échelles géologiques assez rapides, se retrouvait emporté par la tectonique des plaques, par subduction, se retrouvait à grande profondeur là, dans les zones de subduction. Il y avait du métamorphisme et ces carbonates étaient retransformés en dioxyde de carbone. Et ce dioxyde de carbone finissait par remonter à la surface et être évacué au niveau des volcans. Ce mécanisme-là est très bien connu. Par exemple, on mesure très très bien la concentration de carbone dans les volcans qui sont au-dessus des zones de subduction. Et on retrouve tout à fait la même composition, par exemple, isotopique que les carbonates du plancher océanique voisin. Bref, tout ça est bien connu. Et ce que l'on a mis en évidence, c'est que ce système-là est un excellent thermostat. Par exemple, si on imagine dans un système comme ça que la température de surface descend, par exemple, si le soleil est faible ou s'il y a un englacement, à ce moment-là, le cycle d'eau va diminuer. Tout est glacé, beaucoup moins d'eau. Le lessivage, donc le puits de dioxyde de carbone va diminuer, et donc pendant ce temps-là, on va continuer à accumuler du gaz carbonique dans l'atmosphère au niveau des volcans. Donc la pression partielle de CO2 va augmenter, donc l'effet de serre va augmenter, et donc la température surface va revenir à sa température initiale. Donc j'ai fait une petite digression sur la Terre, mais on voit bien que la Terre a été un système assez particulier qui a maintenu, via ce thermostat, via la tectonique des plaques, un climat toujours propice à l'eau liquide et à la vie. Maintenant, si on va sur Mars. Donc Mars est une petite planète, encore plus éloignée. Si on imagine que le Soleil était plus faible, on se doute bien que Mars a dû être plus froid encore et probablement être englacé. Pas de surprise, on s'attend effectivement à ce que Mars était une planète froide, comme elle est encore aujourd'hui, et pas propice à l'eau liquide. En fait, il n'en est rien. Ce qui est passionnant sur Mars, c'est qu'on a accès... Là, je vous montre une carte topographique de la planète Mars, et vous voyez que dans toutes les zones, vous voyez sur les hauts plateaux des zones sud, vous voyez beaucoup de cratères qui nous indiquent que toute cette partie de la planète Mars, les hauts plateaux en tout cas, sont très cratérisés parce qu'ils sont très anciens. Et on a donc accès à la surface de Mars, à des archives géologiques qui datent de plus de 3, 3,5, voire 4 milliards d'années. Et ce qui est passionnant sur Mars, c'est que lorsqu'on regarde ce que nous disent ces archives géologiques qui datent de 4 milliards d'années, c'est que Mars était une planète assez différente, avec en particulier probablement de l'eau liquide à la surface, au moins épisodiquement. Alors on a un grand nombre d'indices que je vais passer en revue rapidement, qui nous suggèrent que Mars, il y a 4 milliards d'années, était donc une planète plus propice à l'eau liquide. La première chose qu'on a découvert depuis les années 70, ce sont des traces de lits de rivière. Vous avez tous déjà vu ça, là c'est une image de Mars Express. Donc partout, alors c'est uniquement dans les terrains anciens, c'est ça qui est passionnant, partout où il y a beaucoup de cratères, donc des terrains très anciens, on voit tout de suite des traces d'écoulement comme ça, qui sont aussi très anciens. On en a toutes sortes, les plus connues, vous avez peut-être déjà vu cette image-là, à gauche, hein, à droite c'est la Terre. À gauche, vous avez le plateau de Varégovalis, avec un lit de rivière, avec plein d'affluents, et on a même pu montrer, donc je compare là avec une paléorivière aussi, dans le plateau de la Dramaout au Yémen, qui est aussi asséché, hein, il n'y a pas d'eau. Hein. Et même en étudiant attentivement, notamment via une imagerie infrarouge, où on peut mieux voir le relief, eh bien, on a pu mettre en évidence un très très grand nombre d'influents, un taux de drainage, on appelle ça, une quantité d'affluents tels qui suggère qu'un plateau comme celui-là, un lit de rivière comme celui-là, un réseau dendritique comme celui-là, a été créé probablement par précipitation, et non pas seulement par quelques sources locales. Il y a apparemment plu ou neigé, puis fondu dans toute cette zone-là. Ce sont les travaux de Véronique Ansan et Nicolas Mangold qui sont maintenant à Nantes, et qui ont vraiment montré ça très bien. L'autre indice que l'on a pu voir, c'est qu'on le mentionne rarement, mais c'est, un facteur vraiment très intéressant, c'est que le taux d'érosion, quand on essaye d'estimer les taux d'érosion en fonction du temps, en regardant les terrains plus ou moins anciens, on voit que le taux d'érosion a extrêmement varié. Je vais vous donner un peu le parfum de comment on fait ça. Je vous montre ici une zone grande, hein, vous voyez, c'est presque 1000 km de la surface de Mars dans les plateaux les plus anciens. Et vous voyez un grand nombre de grands cratères, mais proportionnellement au nombre de grands cratères, on voit moins de petits cratères. Très peu de petits cratères. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été effacés. Les grands cratères sont restés, les petits cratères ont été effacés. On voit parfois des grands cratères qui sont relativement en bon état, relativement récents, et puis d'autres cratères juste à côté qui sont très érodés. Et ce que l'on peut montrer quand on remonter dans le temps avec des méthodes statistiques, en calibrant le taux d'impact de cratérisation par rapport à ce qu'on connaît sur la Lune, c'est qu'apparemment le taux d'érosion a été comme cela. Vous voyez ici sur ce graphe, c'est-à-dire très très élevé il y a plus de 3,8 milliards d'années, plus ou moins, enfin, il y a des incertitudes, élevé à un taux comparable à ce qu'on connaît sur Terre actuellement, c'est-à-dire un taux d'érosion lié à des précipitations, une atmosphère, etc. Et puis, le taux d'érosion s'est effondré pour être ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire presque négligeable. C'est un atome par an, c'est très, 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 très peu actuellement. Donc, tout indique qu'il y a eu vraiment un changement d'environnement dans l'histoire de Mars. Ensuite, on est maintenant dans la fin des années 90, grâce aux nouvelles missions qui sont arrivées dans les années 90, comme Mars Global Surveyor et tout ce qui a suivi. On a découvert un grand nombre de sédiments qui ressembleraient à des sédiments lacustres. Je vous ai mis quelques photos, j'aime bien cette photo-là. Vous imaginez, voyez, la photo fait 3 km de large. Et vous voyez un grand nombre de collines sédimentaires. Si vous montrez ça à un géologue terrestre, il va vous dire, ça je sais ce que c'est. Ce sont des sédiments déposés au fond d'un océan, au fond d'un lac, puis érodés. Effectivement, ça ressemble à ça. Bon, on se posait quand même des questions, parce qu'au début, on s'est dit, mais c'est quand même une planète sur laquelle aussi il y a beaucoup de vent, il y a des dunes. Peut-être que ce sont simplement des dépôts éoliens accumulés millions d'années après millions d'années qui ressemblent à ça. Mais en fait, en 2003, et depuis on en a découvert beaucoup, beaucoup, on a découvert carrément des dépôts sédimentaires en forme de delta, hein, une espèce de petite Camargue asséchée, que vous voyez ici. Là, c'est un cratère qui s'appelle Esbervalde. En bas de l'écran, vous avez une rivière qui arrive, et puis là, qui débouche dans ce cratère, les restes d'un dépôt sédimentaire qui ressemble tout à fait à un delta. Si on regarde même en détail, on voit ici des traces caractéristiques de ce qui est laissé lorsque vous avez des méandres qui se forment, qui déposent des alluvions, et puis à la fin, le méandre est recoupé. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Vous avez une comparaison entre ce qui se passe sur Terre à droite et un zoom sur ce qui se passe dans ce cratère-là. Bon, tout indique que l'eau liquide a coulé longtemps, etc. Et puis enfin, ça c'est depuis 2004, en particulier grâce à la mission Mars Express, et puis au Mars Exploration Rover, les rovers qui sont à la surface, on a pu vraiment continuer l'enquête. On a pu mettre en évidence aussi que non seulement la géomorphologie avait été marquée par la présence de liquide, mais aussi la minéralogie. On retrouvait un certain nombre de roches anciennes qui se forment ou qui sont caractéristiques d'une altération par l'eau liquide. On a trouvé au tout début de l'hématite, c'est un minerai de fer qui se forme normalement avec de l'eau liquide. On a trouvé des sulfates, qui sont des sels de sulfate, riches, qui sont des minéraux hydratés, et en plus qui sont normalement des évaporites, qui se forment lorsque vous avez de l'eau liquide qui s'évapore. Et puis, on a trouvé un peu de silice. Et puis surtout, depuis quelques années, grâce à l'instrument Omega, qui est développé en France, responsable, c'est Jean-Pierre Bébring, je suis sûr que vous le connaissez tous. Eh bien, on a découvert des argiles. Alors, vous allez me dire, des argiles sur Terre, il y en a partout. Ben oui, il y en a partout sur Terre, parce que les argiles sont vraiment le produit typique de l'altération des roches, par exemple volcaniques, par de l'eau liquide. Et donc, le fait d'en trouver sur Mars, au moins dans un premier temps, on s'est dit vraiment, là, on a la signature d'une époque où il y avait de l'eau liquide pendant longtemps. Ça met beaucoup de temps pour altérer et former des argiles. Et donc, on avait vraiment un indice très fort de la présence d'eau liquide dans certains endroits. D'ailleurs, je dois dire que les argiles, on ne les trouve que dans des endroits où les roches sont particulièrement anciennes, où la zone, où le terrain est particulièrement ancien. Bon, je vous illustre très vite ce que je viens de vous dire. Ici, une colline qui est entièrement constituée de sel de sulfate dans la Valles Marineris sur Mars, pour ceux qui connaissent, donc qui a été mise en évidence par l'instrument Omega sur Mars Express. Voilà une image, une strate entièrement composée essentiellement de sel de sulfate. Ça, c'est une photo qui a été prise par les rovers, les Mars Exploration Rovers, qui sont actuellement en action encore sur Mars, donc dans la zone de Meridiani. Ça, c'est une photo qui date de 2006. Et puis ici, une image comme ça de mise en évidence, vous voyez, autour dans les terrains très anciens, excavés par des impacts, on voit là des argiles détectées. Là, c'est ce que vous voyez en couleur, je ne vais pas détailler. Les travaux de Damien Loiseau, qui vous montre une carte des argiles. Donc ça, c'est vraiment, si vous allez dans un congrès sur Mars, vous aurez des heures et des heures de discussions sur ces genres de cartes passionnantes. Donc tout cela indique que Mars était différent il y a quelques milliards d'années, et évidemment, on a envie de dire, même peut-être comme la Terre, parce qu'on trouve des argiles, des rivières, des lacs, voire des immenses lacs, quasiment des océans, des mers. Et donc, on a, depuis les années 70, depuis longtemps, envie de dire, Mars était un peu comme la Terre, il y a 3,8 milliards d'années, ce qui est d'autant plus excitant qu'à l'époque, la vie est apparue apparemment sur Terre. Alors, le problème, c'est qu'il faut comprendre ce qui s'est passé, et on peut se demander pourquoi Mars était différente à l'époque. Donc, je reviens sur mon petit graphe que je vous ai montré tout à l'heure. Est-ce que c'était lié au fait que le Soleil était différent ? Il y a eu des spéculations pour dire que peut-être le Soleil était plus brillant à l'époque que maintenant, des spéculations qui voulaient trancher, qui voulaient remettre en question le modèle standard du Soleil. Alors je pourrais en parler pendant les questions, mais enfin, pour l'instant c'est plutôt écarté. Est-ce qu'il y avait un rôle du bombardement, des impacts météoritiques ou du flux géothermique plus élevé ? J'y reviendrai. Mais évidemment, on a envie de se dire que le climat était différent, tout simplement. Il pleuvait, il y avait des rivières. Le climat était différent, donc parce que l'atmosphère était différente, plus épaisse. Alors je dois avouer que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, il y a une longue histoire de recherche scientifique, et je vais vous montrer très brièvement quelques résultats sur cette enquête-là, c'est-à-dire comment est-il possible que sur une planète déjà éloignée du Soleil, à une époque où le Soleil était 25% plus faible qu'aujourd'hui, on pouvait avoir peut-être de l'eau liquide à la surface. Donc depuis de nombreuses années, et particulièrement récemment, là j'ai un article que je vais terminer cet après-midi, je suis presque sérieux, on travaille beaucoup avec différents post-docs, notamment financés par la Fondation Nel Duca, sur essayer de simuler numériquement le climat à l'époque. Donc la simulation numérique du climat, c'est le point fort de notre laboratoire, parmi d'autres choses comme l'observation du climat. Et donc j'utilise des modèles de climat pour essayer de comprendre. Et là, on se pose une question très simple. On prend la planète Mars, on met une épaisse atmosphère avec le cocktail de gaz qu'on veut. Pour l'instant, je vais juste vous parler lorsqu'on a du dioxyde de carbone et de l'eau. On prend en compte le fait que le Soleil est faible et on regarde ce qui se passe. Eh bien, alors, je ne vais pas vous détailler ce graphe-là, vous voyez, extrait d'une présentation scientifique, tout est en anglais, on vous donne les détails. C'est juste pour vous dire qu'en fait, cette question qui semble facile, calculer le climat dans une atmosphère avec 2 barres de CO2, en fait, c'est un problème terrifiant pour des raisons bizarres. En fait, chaque article qui est écrit démontre que le précédent était faux, et ce depuis 25 ans, voire 30. Parce qu'à chaque fois, il y a un problème de spectroscopie, de microphysique, de nuages, de plein de choses. Et donc nous, on est dans la tradition avec de nouveaux travaux. Néanmoins, notamment en particulier, on a montré qu'il y avait un problème de tous les travaux qui avaient été faits jusqu'à présent dans un problème spectroscopique précis, c'est ce qu'on appelle la collision-induced absorption, qui est lié à l'effet de serre du CO2. Bon, vous voyez, je ne vais pas vous donner ces détails-là. Néanmoins, on a montré que l'effet de serre du CO2 était moins fort que l'on pensait. Alors uniquement dans le cas où on est à haute pression de CO2, hein, ça ne marche pas sur Terre. Et en fait, ces travaux-là, qui prennent aussi en compte le fait que dans une telle atmosphère, il se forme des nuages de CO2. Là, vous avez une carte de Mars avec une animation qui vous montre la couverture en nuages de gaz carbonique. Alors, les nuages de gaz carbonique, c'est aussi un de mes dada. On en voit sur Terre actuellement. Ce sont des nuages qui, à l'œil, ressembleraient à nuages que l'on connaît sur Terre, mais dans l'infrarouge thermique, ils ont un comportement différent. Ils réfléchissent la lumière infrarouge. Les nuages terrestres absorbent la lumière infrarouge. Et ils ont pour conséquence d'avoir un effet de serre assez particulier de réflexion du rayonnement infrarouge. Donc, ils chauffent la planète, quoi. Bref. On prend en compte tout ça, on fait tous nos calculs le mieux possible. Vous voyez qu'on a un vrai modèle dynamique, il y a des ondes, il y a la météo. Minute par minute, on simule ça, on a essayé d'atteindre un équilibre. Et on a comme ça ce que l'on pense être une planète virtuelle et ce que l'on pense être la meilleure estimation du climat possible sur une planète. Alors on peut torturer ça en tous les sens, toutes sortes d'atmosphères. pour faire plaisir à Jacques Lascar qui est ici, on met toutes sortes d'obliquité et d'excentricité. Jacques est le spécialiste de ces calculs-là. Ce que l'on a montré, en fait, c'est que, à la lumière de toutes ces nouvelles connaissances, c'est extrêmement difficile de réchauffer la planète Mars. Là, je vous montre ça en un seul graphe très simple. Vous voyez ici la température de surface en Kelvin, en fonction de la pression pour une compilation de simulations. Et ce que l'on voit, c'est que avec ou sans nuages de glace carbonique, on a beau être optimiste, essayer de tricher un petit peu, de mettre des nuages les plus efficaces possibles avec une microphysique la plus favorable, on n'arrive pas du tout à chauffer la planète Mars. Et ça, c'est un résultat un peu nouveau. Il y a encore 5 ans ou même quelques années, j'aurais dit non, mes modèles arrivent à chauffer. Là, on n'y arrive plus du tout. Et vous voyez que la température maximum, là, c'est la température moyenne, hein, bien sûr, la température moyenne sur toute la planète, la température moyenne, on arrive à moins 40 degrés à la surface, au mieux, en moyenne. Donc une planète extrêmement froide, il n'y a vraiment rien à faire. Et ça, c'est pour Debar. On a même, dans tous ces travaux, ajouté un cycle de l'eau. Là encore, je ne vais pas vous détailler, c'est encore une fois assez ambitieux, je dirais. Donc on simule complètement, on a essayé d'imaginer s'il y avait des océans, si la vapeur d'eau pouvait contribuer à réchauffer le climat, si on pouvait avoir localement un peu d'écoulement, etc. Et ce que l'on trouve surtout, c'est une planète, là vous avez une espèce d'animation, c'est une simulation avec un système qui permet de simuler où est-ce que la glace va stabiliser. C'est une planète englacée partiellement, où la glace va s'accumuler sur les hauts plateaux, mais on n'a pas du tout de zones où la glace va fondre, où il va y avoir des rivières, etc. Et on a beau torturer un peu le modèle, essayer de... on se rend compte que c'est vraiment très difficile. Alors je pourrais rentrer dans les détails sur le fait qu'on ne peut pas mettre n'importe quel gaz à effet de serre, ça ne marche pas facilement. Mais en tout cas, nos conclusions en tout cas récentes sur ces travaux-là suggèrent qu'on ne comprend pas bien comment est-ce que la planète a pu connaître des précipitations pendant longtemps, avoir un climat du type terrestre. Et ce qui fait que nous, ainsi que d'autres travaux récents, remettre un peu en question cette idée d'un Mars primitif, chaud et humide, warm and wet, qui est le scénario classique qui est évoqué, et on commence à se dire que peut-être on avait une planète Mars primitive assez glacée, nettement, avec des températures moyennes et localement, généralement nettement en dessous de zéro, mais qu'il y avait de temps en temps des écoulements et qui expliqueraient tout ce que l'on voit. Alors c'est quand même une grosse remise en question. Encore une fois, ce que l'on voit, c'est des deltas, des rivières, des traces d'océans entiers, c'est quand même, enfin de mer entière, c'est assez spectaculaire. Et peut-être qu'on pourrait tout expliquer sur une planète relativement froide, mais sur laquelle on aurait beaucoup de glace, et tout s'expliquerait peut-être, c'est un peu extrême, avec des impacts. Je vous ai dit qu'il y avait de nombreux impacts à l'époque, les impacts dans la glace qui feraient fondre, qui créeraient un microclimat pendant quelques années, et à ce moment-là, on aurait des écoulements. Et aussi, un grand rôle de l'hydrothermalisme. On avait un flux géothermique beaucoup plus intense à l'époque qui chauffait, par exemple, sous les glaciers. Et peut-être que sous les glaciers, on formait des poches d'eau qui pouvaient après s'écouler, etc. Je cite deux travaux. Donc Nicolas Mangold, qui est à Nantes et qui a récemment vraiment montré qu'un grand nombre de... En particulier, par exemple, le cratère Ebbesvalde, dont je vous ai parlé tout à l'heure, était peut-être directement lié à un impact ponctuel qui aurait fait fondre la glace locale. Et puis un article récemment de Bethany Hellman, qui est une postdoc, maintenant elle est rentrée aux États-Unis, mais qui était à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay. Vous voyez, honnêtement, je n'ai pas triché, il se passe beaucoup de choses en France à ce niveau-là. Et qui a montré que les argiles, telles qu'on les observe par Omega, par d'autres instruments américains maintenant, peut-être ont toutes les caractéristiques, non pas d'argile type terrestre formée par l'altération par des rivières et au fond de lacs, mais plutôt par de l'hydrothermalisme, c'est-à-dire quelque chose qui passerait sous terre dans des réseaux hydrothermaux avec de l'eau chaude dans des régions volcaniques, etc. Et à ce moment-là, on va peut-être vers une idée de se dire peut-être que Mars, c'était pas si... Enfin, il y avait de l'eau liquide, c'était quand même favorable, mais c'était pas aussi... pas comme la Terre, quoi. Malgré tout, il faut noter que pour avoir quand même ce que l'on voit là, il faut une atmosphère quand même nettement plus épaisse que l'atmosphère de Mars actuellement. Je vous ai dit que si on regarde les terrains depuis 3 milliards et demi d'années, il ne s'est presque plus rien passé. Enfin, il y a eu de la glace, mais il n'y a pas eu d'altération ni d'érosion par l'eau liquide. Et on pense que, en fait, pourtant, il y a eu des impacts, il y a eu des éruptions volcaniques. On pense probablement que l'atmosphère est devenue très, très fine comme elle est actuellement et qu'elle est tellement fine actuellement que l'eau liquide n'est pas stable. Donc, on imagine une planète glacée, oui, mais avec une atmosphère assez épaisse, peut-être des centaines de millibars, ce qui permet, dès qu'on a quelque chose qui chauffe, de faire fondre l'eau et de creuser des rivières. Alors, pour trancher dans ces débats-là, on aimerait bien envoyer des géologues. Alors, c'est pas évident. Ça coûte très cher. Mais ce que l'on fait en attendant, c'est d'envoyer des robots géologues. Et je voudrais juste attirer votre attention. Donc là, vous avez les trois générations de robots. À droite, le tout petit, qui a fait quelques dizaines de mètres, s'appelait Sojourner en 97. Au milieu, vous avez les Mars Exploration Rover, qui faisait 180 kg, qui avait un ensemble d'instruments, qui ont fait des explorations passionnantes. Et puis, parti en décembre dernier, et qui va arriver le 5 août 2012, vous avez le formidable Mars Science Laboratory, qui fait la taille d'une voiture, qui pèse une tonne. et qui va rouler à la surface, propulsée par une petite centrale nucléaire, et qui va vraiment mener l'enquête dans une zone passionnante. À bord, vous avez un certain nombre de contributions françaises, deux instruments, en particulier financés partiellement par le CNES. J'ai eu la chance d'aller pas mal au JPL ces dernières années et de voir le montage de cet engin qui est absolument incroyable à voir, c'est absolument spectaculaire, et qui va donc mener l'enquête avec un grand nombre d'instruments, et encore une fois, deux instruments français, donc je peux faire la publicité. Vous avez un système d'analyse élémentaire des roches à distance par impulsion laser, on tire sur les roches, on évapore la roche et on peut regarder sa composition grâce à un petit spectromètre. Donc ça, c'est développé en grande partie à Toulouse, sous la direction de Sylvestre Maurice. Et puis vous avez un mini-laboratoire à bord du rover, et notamment des colonnes de chromatographie en phase gazeuse, pour ceux qui connaissent, qui sont construites ici, entre Paris et Créteil, dans notre institut, avec le soutien du CNES. Donc Curiosity va viser cet endroit-là, ça s'appelle Gale Crater, qui fait 150 km de diamètre. Et ce que vous voyez, donc, c'est un grand cratère très ancien, relativement ancien, pas très ancien malheureusement. Et au milieu, vous avez une espèce d'accumulation, une colline sédimentaire de milliers de mètres d'épaisseur qui semble pouvoir donner accès à toute l'évolution du climat sur Mars, en partant du bas où on voit des argiles, et puis on remonte, il y a des sulfates, puis le tout est érodé par des petits écoulements à suivre. On ne sait pas du tout ce qu'on va voir. Est-ce qu'on va trancher vers une planète Mars vraiment chaude et humide, ou au contraire, revenir vers quelque chose de plus glacé? Vraiment, la question est posée. Néanmoins, pour comprendre l'évolution, puisque c'est le sujet de ma discussion, la vraie question est donc de savoir pourquoi Mars a perdu son atmosphère. La question, ce n'est pas tellement de savoir pourquoi Mars a perdu son eau. Il y a encore beaucoup d'eau et sous forme de glace sur Mars. La vraie question, c'est pourquoi Mars a perdu son dioxyde de carbone. Et là, il y a plusieurs scénarios possibles. Si on part de la droite, un scénario possible, par exemple, Mars ayant une faible gravité, trois fois plus petite que sur Terre, on peut imaginer que les impacts aient éjecté une partie de l'atmosphère à l'époque de ce bombardement massif, il y a 4 milliards d'années, 3,9, 3,8 milliards d'années. Mais en même temps, les récents travaux n'indiquent que ça ne marche pas si bien, parce que les impacts apportent aussi des éléments volatiles comme le CO2. On peut imaginer, vous voyez ici, c'est marqué numéro 3, qu'il y a eu une perte chimique en surface. Tout simplement, si vous avez, on l'a vu sur Terre, si vous avez du CO2 dans l'atmosphère et de l'eau liquide à la surface, normalement, le CO2 se combine à l'eau, forme des ions HCO3- et forme des carbonates. Et il devrait y avoir un dépôt de carbonate. C'est quelque chose qu'on a longtemps cru, et puis qui a été ces dernières années plutôt réfuté, parce que partout où on regardait, on ne voyait pas de carbonate sur Mars. Mais récemment, on commence à revoir des carbonates dans certains endroits précis, et il commence à y avoir une idée que, finalement, il pourrait y avoir une certaine quantité de l'ancienne atmosphère de Mars qui est piégée sous forme de carbonate à la surface de Mars, mais c'est probablement une quantité assez faible. En tout cas, je dirais qu'il y a un gros point d'interrogation sur ce sujet. À suivre, on verra par exemple ce que va nous indiquer le rover Curiosity. Et puis enfin, le suspect principal pour la perte de l'atmosphère, c'est de se dire que Mars a perdu son atmosphère dans l'espace. Le problème, c'est que si on s'intéresse à la Terre, par exemple, la Terre ne perd quasiment pas d'atmosphère dans l'espace, à part de l'hydrogène. La Lune, elle perd facilement toute atmosphère. Mars est entre les deux. Et en fait, c'est assez difficile, à part l'hydrogène, de perdre du dioxyde de carbone dans l'espace. Et on est obligé d'invoquer un certain nombre de scénarios assez compliqués, avec de la photochimie qui éjecte des ions. Les ions sont ensuite accélérés par le vent solaire qui va ensuite repercuter le CO2 dans l'atmosphère, ce qu'on appelle le criblage. Et donc, des mécanismes assez complexes que l'on comprend mal et que l'on veut étudier. Pour l'instant, voilà les questions que l'on se pose. Alors, dans tous les cas, si on réfléchit bien, on voit que ce soit pour ce qui est de l'échappement par impact météoritique, gravité trop faible, que ce soit pour ce qui est de la perte chimique en surface, la formation de carbonates, mais qui ne sont jamais recyclés par tectonique des plaques. Les tectoniques se forment et restent piégées, donc l'atmosphère est perdue définitivement. Soit l'échappement par le vent solaire, qui est en particulier favorisé par l'absence de champ magnétique. Absence de champ magnétique qui semble être liée à une faible activité géologique, là aussi. Dans tous les cas, on se dit que le problème de Mars, ce n'est pas tellement qu'elle était trop loin du Soleil, typiquement, c'est qu'elle n'a pas eu assez d'activité géologique, qu'elle était trop froide, au sens géothermique, qu'elle n'a pas assez grande gravité, bref, en deux mots, qu'elle était trop petite. Et en effet, elle est deux fois plus petite que la Terre, et donc c'est ça la leçon de Mars. On imagine que Mars a plutôt devenu ce qu'elle est parce qu'elle était trop petite, et on peut imaginer que si c'était avait été la Terre à la place de Mars, on aurait peut-être une planète propice à l'eau liquide et à la vie, avec une épaisse atmosphère de CO2 pour avoir un effet de serre, et puis voilà. Bon, je voulais mentionner que, là encore, la recherche est en cours. Nous, on travaille sur essayer de comprendre l'échappement de l'atmosphère martienne avec nos collègues de différents laboratoires. On a tout un projet qui s'appelle Heliosares, je ne vais pas entrer dans les détails. Puis la NASA a une mission sur laquelle on est un peu impliqué, qui s'appelle MAVEN, qui sera lancée fin 2013 et qui a pour objectif de comprendre la perte de l'atmosphère de Mars, l'atmosphère primitive, dans l'espace via un certain nombre d'études concernant comment les mécanismes d'échappement de l'atmosphère actuelle dans l'espace. Voilà, le temps passe très vite. Maintenant, je vais passer sur Vénus. Bon, c'est moins long. Hein. Et vous dire un petit peu, après avoir parlé longtemps de Mars, quelques mots sur Vénus. Alors, Vénus, eh bien, contrairement à Mars, on a très peu d'indices sur ce qui se passait il y a 4 milliards d'années. Alors là, on pourrait se dire que la raison, c'est que Vénus, la surface de Vénus est très difficile à observer puisque vous avez une épaisse couverture nuageuse en permanence. Bon, cependant, depuis une vingtaine d'années, Vénus est mieux connue, notamment grâce à la mission Magellan de la NASA, qui a fait la cartographie grâce à un radar de la surface à une assez haute résolution, toute la topographie, on voit très très bien les choses. Et donc on aurait pu avoir accès à des traces de rivières, par exemple, s'il y en avait eu, ou d'océans, s'il y en avait eu à l'époque. En fait, on n'a pas accès à ce qui s'est passé sur Vénus il y a 4 milliards d'années parce que, en fait, lorsqu'on regarde les impacts que l'on peut déceler à la surface via ce radar, eh bien, on a pu montrer que... Alors, on observe des impacts. Malgré l'atmosphère très épaisse, toutes les astéroïdes qui font plus de 30 mètres passent à travers l'atmosphère et créent des impacts. Et on peut compter les impacts et donc dater la surface de Mars. Et ce que ces missions de radar ont permis de découvrir, c'est que la surface de Vénus, donc vous voyez ici une carte des impacts sur Vénus, que vous voyez, c'est qu'ils sont extrêmement bien distribués de manière aléatoire, absolument partout, et il y en a un certain nombre. Et quand on compte ces cratères, on peut estimer l'âge de la surface de Vénus. Et on peut montrer que partout, la surface de Vénus a entre 600 millions d'années et 1 milliard, peut-être un peu plus, milliard d'années. Elle est beaucoup plus jeune que l'âge de la planète. Il semble que Vénus ait connu, il y a environ 1 milliard d'années, un événement de resurfaçage global, volcanique, qui a entièrement remis à zéro la surface et a complètement caché ce qui a pu se passer avant. Donc on n'a pas d'indice, aucun indice sur ce qui a pu se passer avant sur Vénus, contrairement à Mars. Alors pour comprendre l'évolution de Vénus, eh bien, on est obligé de faire des calculs, des estimations un peu plus théoriques. Et en fait, depuis la fin des années 60, on a pu mettre en évidence un scénario assez séduisant sur ce qui a pu arriver à Vénus, en imaginant même qu'elle ait démarré comme la Terre, avec des océans d'eau liquide à la surface. À l'époque, le Soleil était plus faible, c'était peut-être possible. Et on essaye d'imaginer, si on part de cela, ou en d'autres termes, c'est un peu comme si on prenait la Terre et qu'on l'approchait du Soleil, qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi Vénus est comme elle est, si on imaginait qu'elle a démarré comme la Terre? Alors, ce sont des travaux, notamment, qui ont été menés par Catherine Debert, qui est ici, qui m'avait invité. Alors, en 70, Catherine devait avoir 15 ans, à mon avis, mais je ne sais pas comment elle a fait. Et donc, c'est des articles très importants dans Nature qui vraiment ont révélé cette histoire-là, un scénario d'évolution de Vénus. Le scénario, c'est le suivant, c'est assez simple. On imagine une planète un peu comme la Terre avec de l'eau liquide. Mais le Soleil est plus brillant, de plus en plus brillant. Et à un moment donné, lorsque le flux solaire augmente, eh bien, le climat va devenir instable. En effet, si vous augmentez le flux solaire, vous avez tendance à augmenter la température, en particulier la température des océans, s'il y en a. Vous allez donc évaporer l'eau. Et donc, augmenter l'effet de serre. Et vous voyez bien que là, vous avez une rétroaction positive qui rend le climat extrêmement instable. Et lorsqu'on fait des calculs, là, je vais vous montrer des résultats d'un article de Jim Casting, qui est l'autre, un grand spécialiste de toutes ces questions-là. Vous voyez ici un graphe où vous voyez la température de surface à gauche, moyenne sur la planète, avec des modèles très simples en 1D, etc., unidimensionnels. Et vous avez ici, en abscisse, vous avez le flux solaire, normalisé par rapport au flux solaire sur Terre actuellement. Donc vous voyez que sur Terre, là, c'est entre 0,8 et 1,2, il fait environ 300 Kelvin, c'est à peu près ce qu'on a sur Terre, un peu moins. Mais quand on augmente légèrement le flux solaire, eh bien, la courbe augmente très fortement. Et lorsqu'on s'approche à l'équivalent de 0,84 unités astronomiques du Soleil, c'est-à-dire quasiment là où vous voyez la Vénus il y a 4,5 milliards d'années, on a une explosion de la température qui passe directement de 400 degrés à 1400 degrés. Ce qui se passe, c'est que les océans se mettent à bouillir et vous avez des barres et des barres d'eau qui se retrouvent dans l'atmosphère. Vous avez une atmosphère, une planète sauna, comme on dit, entièrement remplie de vapeur d'eau. Alors, bon, là, c'est un modèle 1D où on ne prend pas en compte les nuages. Il est sûr qu'il y avait probablement des nuages qui se formaient, et donc l'albédo de la planète devait quand même protéger. Et donc, on peut imaginer qu'on avait des océans chauds, certes, mais des océans sur Mars, sur Vénus à l'époque. En fait, en faisant ces études, Jim Casting a mis en évidence un mécanisme encore plus terrible, on va dire, que c'est de faire bouillir les océans. En tout cas, qui arrive encore plus tôt lorsque le flux solaire augmente, c'est le fait qu'on risque de perdre l'eau dans l'espace. Ce qui se passe, là je vous montre donc un graphe avec l'altitude ici et la température horizontalement. Donc c'est un profil de température, on n'a pas vraiment de stratosphère, c'est une planète un peu simplifiée. Et lorsque la température de la surface augmente, toute la température de l'atmosphère augmente. En plus, vous avez beaucoup de vapeur d'eau. Et ce qui se passe, c'est qu'actuellement, sur Terre par exemple, vous avez pas mal de vapeur d'eau dans le bas de l'atmosphère, là où il fait chaud, mais au-delà de 10, 12, 15, 20 km, vous avez un piège froid, il fait moins 50, moins 60 degrés, et toute la vapeur d'eau qui monte se condense sous forme de cristaux et retombe. Elle est donc piégée dans la basse atmosphère. Il n'y a presque pas de vapeur d'eau dans la stratosphère et la mésosphère. Si vous augmentez la température à la surface un petit peu, eh bien, vous réchauffez tout le profil de température et vous allez avoir tendance à remonter ce piège froid et à alimenter la mésosphère en vapeur d'eau. Et le problème, c'est que là, vous allez avoir beaucoup de vapeur d'eau à des niveaux de pression très faibles, et là, vous allez exposer cette vapeur d'eau à des nuages, à du rayonnement ultraviolet extrême, qui normalement n'arrive pas dans la basse atmosphère, mais qui va arriver dans la haute atmosphère, et qui va être capable de casser les molécules d'eau, les photodissocier, et qui va donc séparer l'oxygène de l'hydrogène. Et le problème, c'est que l'hydrogène, une fois que c'est libre, c'est très léger, si c'est un petit peu chaud, ça s'échappe dans l'espace, la vitesse de libération pour l'hydrogène est atteinte très facilement. Et donc, on peut imaginer avec ce mécanisme-là que l'on peut perdre facilement les océans de la Terre si on s'approche un peu trop. Et dans les calculs de Jim Casting, que je vous résume ici, vous voyez ici, vous avez le flux solaire en abscisse, pas très simple, hein, et le rapport de mélange de l'eau dans la stratosphère, on voit qu'il y a un comportement complètement exponentiel. Et vous allez avoir, en s'approchant de simplement, si on prend la Terre actuellement, qu'on approche simplement de 5% du Soleil dans ces calculs-là, eh bien, la vapeur d'eau remplit complètement la haute atmosphère et on perd les océans en quelques millions d'années. Donc, on voit qu'on a un véritable problème. Alors, sur cette base-là, on peut imaginer un scénario pour Vénus. Allez, on est optimiste, on imagine Vénus a démarré avec éventuellement des océans et qu'ils se sont un peu évaporés. Donc, on va perdre, via le mécanisme que je viens de vous décrire, les océans dans l'espace en quelques millions d'années. Et puis, à un moment donné, on n'aura plus de cycle de l'eau. Et à ce moment-là, si Vénus se comporte comme la Terre, éventuellement même avec de la tectonique des plaques, eh bien, ça ne va plus fonctionner. Tout le CO2 piégé sous forme de carbonate dans la surface, vous vous souvenez, je vous en ai parlé avec le cycle des carbonates silicates, va se retrouver dans l'atmosphère et va s'accumuler, et on va accumuler la totalité de l'inventaire de CO2 dans l'atmosphère. On se retrouve avec Vénus à présent, avec 90 bars de CO2 et presque plus d'eau, puisque tout est parti il y a quelques milliards d'années dans l'atmosphère. Alors, on aura envie d'avoir plus d'indices observationnels. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'indice géomorphologique. Et un indice qui est très intriguant sur Vénus, c'est que le rapport deutérium-hydrogène est 100 fois plus élevé que sur Terre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'il semble qu'on a perdu beaucoup d'eau dans l'espace. En effet, je vous ai dit que dans ce scénario-là, toute l'eau s'en allait par échappement. Or, il se trouve qu'on imagine que Vénus et la Terre ont démarré avec le même inventaire de deutérium et d'hydrogène. Donc HDO et H2O, par exemple, c'est sous forme d'eau. Lorsque la Terre a perdu un peu d'hydrogène et puis un peu de deutérium, mais pas tant que ça, pas tant d'eau. Vénus a perdu beaucoup d'eau, mais comme on perd beaucoup plus efficacement l'eau que le deutérium, on s'attend à avoir un enrichissement en deutérium. Je n'ai pas été très clair, je m'en rends compte, on pourra y revenir. En tout cas, tout indique que lorsqu'on a découvert ce rapport D sur H extrêmement riche, qui montrait que beaucoup d'eau s'était échappée puisqu'il y avait eu beaucoup de deutérium qui était resté derrière, il y a un article qui a été écrit en 82 qui s'appelait « Venus was wet », la preuve que Vénus était riche en eau, océan ou pas, hein, mais était riche en eau. Mais ensuite, par exemple, en 87, David Greenspoon a écrit un article en disant « Was Venus wet ?» Et la raison, c'est qu'il s'est rendu compte que si on imaginait que Vénus avait démarré sans eau, il suffisait qu'il y ait des impacts de comètes de temps en temps sur Vénus qui amènent un petit peu d'eau. Comme cette eau, de toute façon, allait s'échapper, ça pouvait aussi expliquer le rapport des surages. Bon, c'est un petit peu compliqué si vous n'êtes pas familier avec ces histoires-là, mais en tout cas, ce n'est pas évident de conclure aussi avec cette histoire-là. En tout cas, ce qui est frappant dans toute cette histoire-là, c'est que très peu de travaux ont été faits depuis quasiment 20 ans sur l'évolution ou le climat primitif de Vénus. La raison, c'est que c'est assez compliqué, en fait. Parce que, un peu comme tout à l'heure, la spectroscopie d'une épaisse atmosphère d'H2O, ce qui a pu se passer dans ces étapes intermédiaires est très, très mal connu. Alors, j'aurais aimé, quand j'ai accepté de faire cette présentation, j'ambitionnais de pouvoir vous présenter les résultats d'un gros projet que nous avons en cours, qui est la simulation du climat 3D de Vénus, un peu comme je vous ai parlé sur Mars, pour essayer au moins de comprendre s'il était possible qu'on ait eu un océan sur Vénus il y a 4 milliards d'années. Donc pour cela, on développe pareil un modèle climatique, vous imaginez. Alors le challenge, c'est qu'il faut simuler un climat terrestre, un peu comme la Terre, avec des océans, une dynamique océanique, mais extrêmement chaud, avec des énormes quantités de vapeur d'eau sous pression dans l'atmosphère. Et ça, c'est assez difficile à faire. Mais il y a quand même un intérêt. Non seulement le fait de faire ça en 3D par rapport à ce qu'a fait Casting, c'est qu'on va pouvoir simuler les nuages, simuler le transport d'énergie, la redistribution entre les tropiques et les pôles, ça va être très intéressant. Et en particulier, s'intéresser à quelque chose qui a été suggéré par Yukata Abe au Japon, un personnage étonnant qui est handicapé tétraplégique, mais qui continue à faire de la science, et qui a suggéré l'idée suivante, c'est que dans ce scénario-là, je vous ai évoqué, vous avez une planète Vénus qui peu à peu perd son océan, perd ses océans dans l'espace. À un moment donné, elle va être relativement sèche. Où va aller l'eau qui reste, qui n'est pas encore partie ? Eh bien, peu à peu, elle va se retrouver à être piégée dans les zones froides. Les zones froides, ça va être par exemple au pôle. Et là, vous allez avoir des zones froides au pôle, alors que les tropiques vont être complètement secs. Eh bien, vous allez avoir des zones froides au pôle où là, on peut montrer que l'eau va se stabiliser. Et on pourrait imaginer avoir une période longue pendant laquelle Vénus... Donc, on n'est plus du tout dans le scénario de casting. Ou une période longue pendant laquelle Vénus va être sèche complètement sous les tropiques, mais avec des petits océans, des petites mers au niveau des pôles, et donc une planète propice à l'eau liquide, à la vie, pendant peut-être des milliards d'années. Tout ça est une spéculation théorique, nous on aimerait bien pouvoir le simuler. Mais je n'ai pas de résultat à vous montrer. Voilà, j'ai presque fini, ça c'est mes trois transparentes conclusions. Eh bien, toutes ces histoires-là, donc en fait ces questions qu'on se pose, on va dire, parce que vous voyez qu'on a encore beaucoup de questions à résoudre, eh bien c'est aussi une leçon pour les autres systèmes planétaires, vous le savez bien sûr. Depuis 1995, on a découvert des centaines, voire peut-être avec le satellite Kepler, des milliers de planètes extrasolaires. Un certain nombre sont des planètes telluriques. Et on sait maintenant qu'autour de presque toutes les étoiles, on peut s'attendre, enfin un grand nombre d'étoiles, on s'attend à avoir des planètes, peut-être comme la Terre, et peut-être à des distances comparables à ce que connaît la Terre, Mars, Vénus. Et donc c'est important de savoir si l'évolution de Mars et Vénus, c'est plutôt ce qui arrive le plus souvent, et la Terre est exceptionnelle, ou alors c'est plutôt Vénus et la Mars qu'on peut avoir de chance. Alors, pour l'instant, on ne peut pas répondre, mais ce que l'on peut dire, on va dire ça comme ça, c'est que ça s'est tiré d'une exposition pour le lycée que j'ai fait il y a quelques années, et que nous avons appris le planète du système solaire. D'abord, la Terre, pour maintenir l'eau liquide et la vie, une géologie active, et peut-être même un truc précis, la tectonique des plaques qui n'existe que sur Terre dans le système solaire, donc capable de régénérer leur atmosphère et ajuster son effet de serre, est peut-être indispensable. Bon. Alors, sur Vénus, excusez-moi, c'était... Si l'on est un peu trop proche du Soleil, le climat menace de devenir instable et on risque de perdre toute son eau dans l'espace. Et donc ça, c'est un point important et qui a même remis en question, une considération qui a remis en question beaucoup de conclusions, parfois hâtives, qui ont été données par certains astronomes. Ils ont découvert des planètes, ils se sont dit « Waouh, formidable ! Si je calcule la température, je vois qu'il fait 40 degrés, ça marche. » Mais en fait, si on prend en compte les mécanismes du type Vénus, l'effet de serre de la vapeur d'eau, l'échappement, on se rend compte que, ça, a priori, ces planètes ne devraient pas marcher. Et puis enfin Mars, qui est tout petit et tout triste, vous voyez, nous dit qu'il ne sert à rien d'être dans la zone habitable si on perd 99% de son atmosphère. Et donc, probablement, si on est trop petit, c'est un problème. Mais on peut ajouter quand même, à la lumière de ce que je vous ai raconté, de ce nouveau paradigme que l'on évoque pour Mars primitif, pour expliquer comment il y avait des lacs, peut-être qu'on peut montrer que Mars nous montre aussi qu'éventuellement, ce n'est pas encore sûr, qu'avec une atmosphère suffisamment épaisse, même si la planète est vraiment très froide, en moyenne à moins 40 degrés, si on a un peu de géothermalisme, si on a quelques impacts, on peut assez souvent créer des zones, des niches habitables avec de l'eau liquide pendant quelques années, par exemple, grâce à tous ces phénomènes-là. Donc voilà, c'est ma conclusion. Merci.
C'était François Forget du laboratoire de météorologie dynamique. Sa conférence portait sur l'évolution des climats de Mars et de Vénus. Cette conférence avait lieu au Bureau des Longitudes en janvier 2012. Restez à l'écoute de nos retransmissions en téléchargeant dès maintenant les autres conférences du Bureau des Longitudes sur le site de Canal Academy dans les émissions En colloque, rubrique Science. Et je vous rappelle enfin que les conférences du Bureau des Longitudes sont ouvertes au public. Pour connaître les prochaines dates, vous pouvez vous connecter sur leur site bureau-des-longitudes.fr. Merci et à bientôt pour de nouvelles retransmissions.